Il est 7h.
Qu'ils fassent vite en fait, parce que c'est ce qui est embêtant, c'est de ne pas savoir en fait, c'est d'être là, est-ce qu'on va être confiné ou pas.
Qu'attend le gouvernement, se demande cette Niçoise, suspendue aux annonces de nouvelles restrictions sanitaires. Elles doivent tomber ce matin, tout était pourtant prêt hier soir. On verra pourquoi le gouvernement temporise. Viol, harcèlement, inceste, alors que la parole continue de se libérer, quelles leçons avons-nous retenues des grandes affaires du passé? Il y a 20 ans tout juste démarrait le fiasco d'Outreau, qu'il ne faudrait pas oublier, témoignage l'un des avocats de l'époque. Et puis, le Paris Saint-Germain l'a-t-il joué trop facile? Dur retour à la Ligue 1 après le succès à Barcelone, Paris battu hier soir à Monaco et qui voit ses rêves de titre s'éloigner. Juste après ce journal, l'éclairage éco, Nicolas Barré et le regard international de Vincent Hervouette. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu.
La Libye est le Far West du Maghreb, dites-vous.
Oui, on va parler de la Libye qui a cessé d'exister il y a 10 ans pile. Le ministre de l'Intérieur a échappé hier à un attentat parce qu'il essaye, il tente, il prétend mettre au pas les milices.
Avant de retrouver l'édito sport, Virginie Fulpin, on va parler de tennis. Virginie, bonjour.
Bonjour, on a enfin trouvé la joueuse qui va sauver le tennis féminin, Naomi Osaka, victorieuse de l'Open d'Australie, nouvelle patronne du circuit. Elle part aussi fort qu'elle tape dans la balle et ça fait un bien fou.
Et puis Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Toute l'équipe d'Europe Matin est réunie autour de moi. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Bonjour Théo Manval.
Bonjour à tous.
Et d'abord donc direction Nice, où l'attente de nouvelles restrictions paralyse les habitants.
Il devait être fixé hier soir, la préfecture avait bouclé ses consultations avec les élus, rendu ses pistes au gouvernement. Taux d'incidence 3 fois supérieur au reste du pays, les Alpes-Maritimes s'attendaient à tout, même à l'annonce d'un reconfinement local. Ce n'est donc toujours pas fait, dur pour les nerfs, comme le constate sur place Marion Gauthier.
Si c'est repoussé, je pense que c'est très mauvais signe. On va être confinés de toute façon, ça va être déprimant. Ça va être déprimant.
Alors qu'elle promène son chien en pleine nuit, Elena, auxiliaire de vie, se remémore le mois de mars dernier. Se remémore les heures d'attente au supermarché et les heures en moins accordées à ses patients. Elle se dit...
Franchement, j'ai pas envie. Qu'ils fassent vite, en fait. Parce que c'est... ce qui est embêtant, c'est de pas savoir, en fait. C'est d'être là. Est-ce qu'on va être confiné ou pas
Il faut qu'on voit un peu le bout de tunnel, quoi. Que ça soit au niveau local, que ça soit au niveau national. Parce qu'on n'en peut plus.
Noël Ajoury est président de l'UMI, l'Organisation des métiers de la restauration à Nice. Ces trois établissements n'ont pas résisté à la rentrée scolaire en septembre et aux nouvelles vagues de restrictions.
Je passe même devant, je rentre même pas. De voir tout est éteint, c'est un crève-cœur.
Il prône même un reconfinement strict pour une durée déterminée pour se projeter, pour protéger la belle saison.
Parce qu'on peut pas continuer comme ça. Bientôt on a Pâques. Derrière Pâques, on a le mois de mai, on a 3 week-ends qui sont longs. Si on veut faire ça, on va jouer au cache-cache, on ferme, on ouvre, on ferme, on ouvre, on s'en sort pas.
D'autant que la venue d'Olivier Véran a fait mauvaise presse à la Côte d'Azur. Ici, les hôteliers ont essuyé des annulations et vu les touristes s'échapper vers le voisin varois. Fermer les Alpes-Maritimes, dit une gérante, vous ne ferez que déplacer le problème. Nice, Marion Gauthier, Europe 1.
Alors pourquoi une telle attente? Puisque le gouvernement avait dès hier soir les cartes en main, pourquoi faire durer le suspense jusqu'à cette fin de matinée, Claudia Bertram?
L'enjeu est de taille et l'exécutif ne veut laisser aucun détail de côté. On ne confine pas même qu'un département à la légère. Il est normal que la décision puisse prendre du temps, justifie-t-on à Matignon. Après une concertation de près de 3 heures samedi avec différents acteurs locaux, le préfet a remis hier ses propositions à l'exécutif. Pour les élus du territoire, une hypothèse tient la corde. C'est celle d'un confinement ciblé le week-end. Ils évoquent aussi une jauge diminuée dans les magasins et le port généralisé du masque. Un conseiller ministériel s'interroge. Si on ferme les commerces le week-end, n'est-il pas préférable de fermer complètement? L'idée, c'est d'éviter des choix abscons, poursuit-il, se remémorant la fermeture des rayons dits non essentiels dans les grandes surfaces. D'autant plus qu'un confinement à Nice serait une première en métropole et pourrait ouvrir la voie à des mesures similaires dans d'autres territoires. L'exécutif se défend de tout changement de stratégie. Pourtant, bien que plusieurs fois réclamé, le choix d'un confinement local a, sauf en Outre-mer, toujours été repoussé. D'où ce qui peut ressembler à un excès de prudence.
Claudia Bertram du service politique d'Europe 1. En ce week-end aux heures de début de printemps, les forces de l'ordre ont en tout cas dressé plus de 4500 verbalisations pour non-respect du couvre-feu. Plus de 50 000 contrôles menés un peu partout dans l'Hexagone.
Tandis qu'au volet dépistage, un nouvel outil entre en application.
Les tests salivaires vont commencer à être déployés cette semaine dans les écoles de la zone A, Académie de Bordeaux, Lyon, Besançon ou Limoges, réservés pour l'instant aux élèves de maternelle et des écoles élémentaires pour qui il est trop douloureux d'utiliser l'écouvillon dans le nez. Les prélèvements seront analysés en laboratoire comme pour les autres tests PCR. Est-ce que vous entendez la relève d'une première en Israël, cette fois-ci mise en place du passeport vaccinal, les salles de sport et les piscines, on l'entend, ont pu rouvrir.
J'avais oublié ce doux son des haltères, vous voyez.
Les salles de sport et les piscines rouvertes donc pour les détenteurs d'un badge vert, badge qui signifie qu'ils ont été vaccinés.
Et près de la moitié des Israéliens a reçu une première injection. Coup de fil sur place dans le journal de 8h tout à l'heure.
De l'autre côté de l'Atlantique, les États-Unis, eux, franchiront la barre des 500 000 morts aujourd'hui. Un demi-million de victimes, c'est plus que le nombre de morts américains au cours de la Seconde Guerre mondiale, Alexis Guilleux.
Oui, un seuil franchi en un peu plus d'une année depuis le 6 février 2020 et la mort d'une femme de 57 ans dans le nord de la Californie, premier décès dû au Covid recensé aux États-Unis. De la tragédie new-yorkaise au printemps dernier aux hôpitaux saturés de Los Angeles cet hiver, la pandémie a mis le système de santé américain à genoux. C'est horrible, c'est effroyable, dit Anthony Fauci, le conseiller médical de la Maison Blanche. C'est historique, on n'a rien vécu de tel depuis la grippe espagnole il y a un siècle. Dans plusieurs décennies, on en parlera comme un événement tragique de l'histoire de ce pays. Alors il y a quand même plusieurs motifs d'espoir, même si la mortalité reste élevée, le nombre de nouvelles contaminations est en chute libre aux États-Unis, moins 44% sur les deux dernières semaines. Dans le même temps, la vaccination progresse, 13% des Américains ont déjà reçu leur première dose. Mais à cause de la propagation des variants, Washington reste très prudent sur une potentielle date de retour à la normale, pas avant Noël, a assuré Joe Biden la semaine dernière. Pour le docteur Fauci, il est encore possible que les Américains portent des masques en 2022.
Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 à New York.
Et en France aussi, on va continuer à porter des masques et à rester pour beaucoup en télétravail. Mais pour lutter contre la déprime, Mathieu, qui s'installe à force de rester chez soi pour ceux qui ne partent pas en vacances, certains professionnels vous proposent désormais une parade, formule tout compris, dans certains hôtels comme ici à Deauville, où vous allez l'entendre, on peut à la fois télétravailler au grand air et profiter d'un week-end prolongé. Reportage Damien Mestre.
Canapé design, salle de réunion, dernier cri, il y a même un fond de musique lounge et l'éternel baby-foot. On se croirait dans une start-up avec ses cadres en visio derrière leurs ordinateurs.
J'étais dans une réunion avec mon comité de direction.
Mais il s'agit bien d'un hôtel, un lieu finalement idéal pour télétravailler en bord de mer. C'est le cas de Philippe qui est à Deauville pour la semaine.
D'abord, je peux travailler au calme dans un environnement professionnel. Et puis, je pense oui, que c'est une forme de liberté qu'on peut avoir. Mais il faut l'organiser. Il faut bien y réfléchir.
Tout organiser, c'est ce que promet justement l'établissement qui souhaite attirer une nouvelle clientèle, celle des urbains désormais rompus au télétravail, explique Maxime Hibert, le responsable.
La pandémie a participé au développement de ces offres de télétravail. Après, travailler de chez soi, je pense que les gens, c'est pas forcément ce qu'ils recherchent. Et le fait de venir effectivement ici pour travailler, on change d'air, on change d'environnement et on change de cadre et ça fait du bien.
Si lui est persuadé qu'une demande est bien là, reste à savoir si elle passera la crise et sera suffisante dans cet hôtel qui alterne encore entre chômage partiel et activité réduite.
Un reportage à Deauville, signé Damien Metz.
Plus loin et installer la matinale dans un bel hôtel de Deauville
pour voir.
7h08 sur Europe 1. Les évêques de France entament aujourd'hui un synode de 3 jours.
Consacré aux crimes pédophiles dans l'église, assemblée à huis clos pour poursuivre la réflexion notamment sur la réparation financière envers les victimes et aboutir à des annonces à ce sujet le mois prochain. Et dans l'église, le cinéma, la musique, les familles, la parole concernant les crimes sexuels s'est considérablement libéré ces dernières années. L'écoute aussi a changé. Mais se saisit-on toujours de ces sujets avec la prudence nécessaire? Il y a 20 ans tout juste éclatait l'affaire Doutreau, sordide affaire d'abus sexuels sur enfants et au final un naufrage judiciaire.
13 personnes injustement accusées avaient été acquittées. 20 ans après, l'un des avocats de l'époque prend la parole sur Europe 1. Témoignage rare, maître Hubert Delarue. Il défendait l'un des hommes innocentés. Il estime que certaines leçons de ce dossier ont été aujourd'hui oubliées.
Le drame d'Outreau, c'est notamment la violation de la présomption d'innocence. Et le sentiment que j'en ai aujourd'hui, c'est que on avait dit après Outreau, plus jamais ça. Or aujourd'hui, on en a oublié les leçons parce qu'on avait immédiatement jeté en pâture 13 innocents comme étant déjà coupables. On se demandait d'ailleurs même pourquoi il était nécessaire de venir les juger en 2004 devant la cour d'assises de Saint-Omer. Eh bien aujourd'hui, on est encore dans une espèce de grand bain juridico-médiatique dans lequel quasiment tout est permis. Au fond, il suffit de se plaindre, il suffit de venir dire « voilà, j'ai été victime de ceci il y a 35 ans par monsieur Intel » et du même coup, vous devenez immédiatement une victime et cette personne n'est plus un accusé, il devient immédiatement un coupable. Au fond, on a l'impression aujourd'hui que la justice a disparu. L'institution judiciaire, elle court après la télévision, elle court après les chaînes d'infos. Et ça, c'était véritablement ce que nous espérions, que le procès d'Outreau, les leçons d'Outreau, que tout ça ne serait plus dans le système judiciaire dans lequel nous vivons. Eh bien, force est de constater que ces leçons, au fil du temps, se sont édulcorées et qu'il n'en reste malheureusement aujourd'hui pas grand-chose.
Donc oui à la libération de la parole, mais non à la vindicte.
Oui à la libération de la parole dans la forme judiciaire. Il faut évidemment que ce chiffre noir de l'inceste, il faut bien sûr que tout cela se libère et il faut que les coupables soient condamnés. Mais il faut que cela se fasse, si vous voulez, selon les règles. Ouvrir aujourd'hui des enquêtes préliminaires sur des faits dont on sait déjà, de manière irrévocable, que ces faits sont prescrits, je ne vois pas très bien quelle est la signification de ce genre de procédure. Alors c'est peut-être que la justice ne veut pas être en reste des réseaux sociaux ni de la justice médiatique et de se dire, eh ben, on va nous-mêmes aussi regarder. Mais regarder quoi ? Vérifier quoi ? Puisqu'en réalité, tout le monde sait que ça ne mènera nulle part.
Le témoignage de Maître Hubert Delarue, avocat dans le dossier d'Outreau, il répondait à Guillaume Biet pour Europe 1.
Et puis le football enfin, avec le dur retour à la réalité de la Ligue 1 pour le Paris Saint-Germain.
Capable du meilleur, la semaine dernière à Barcelone, les Parisiens ont surtout montré le pire. Hier soir sur la pelouse de Monaco, défaite 2-0. Après cette 26e journée, le rêve de titre semble s'éloigner, Julien Froment.
Une défense à la rue, pas d'idée en attaque. Les héros de Barcelone ont reçu hier soir une leçon au Parc des Princes, leçon tactique et collective de la part de l'AS Monaco. Résultat, le club de la Principauté revient à deux longueurs au classement du Paris Saint-Germain. Surtout Lille s'échappe avec désormais un matelas de 4 points d'avance sur le club de la capitale. Le titre, un doux rêve. L'entraîneur Mauricio Pochettino, malgré le résultat embarrassant de son équipe, veut encore y croire.
Bueno, c'est la réalité.
Bon, c'est la réalité, on ne peut pas la changer. On n'a pas fait un bon match. Les 3 points nous auraient permis de rester au contact de Lille. Après, tant que c'est mathématiquement possible, nous allons nous battre pour le titre.
C'est déjà la 6e défaite cette saison pour le Paris Saint-Germain, du jamais vu sous l'ère qatari. Fort avec les faibles, mais faible contre les meilleurs du championnat. C'est bien simple, le PSG n'a pris qu'un seul point dans ses confrontations directes avec Lille, Lyon et Monaco. Difficile, dans ces conditions, d'espérer remporter un 10e titre de champion de France.
Julien Froment. Paris défait au Parc des Princes.
Quelle belle pub pour la Ligue 1. On a tellement parlé de la valeur de la Ligue 1 ces derniers mois. L'AS Monaco, c'est pas le FC Barcelone. Hein, qu'on... Non, pardon.
Yes, est-ce que Fabregas ? Non, c'est un point commun.
Éventuellement. Paris désormais, oui, 3e au classement.
Oui, à 4 points de Lille qui a écrasé hier soir Lorient 4-1.
Et du suspense donc pour cette Ligue 1. Merci Théo Manval, c'était le journal de 7h sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Un petit pas pour l'homme d'église et c'est un bond de géante pour la femme catholique. La religieuse Nathalie Bécard, nommée sous-secrétaire du Synode des évêques. Pour faire simple, une femme avec le droit de vote au Vatican, c'est une première historique. Sœur Nathalie Bécard, diplômée d'HEC, fraîchement installée au Vatican, elle reçoit Europe 1 dans ses bureaux pour sa première interview radio, le tête-à-tête Europe Matin à 7h40. Mais tout de suite, l'éclairage éco, Nicolas Barré. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Les réfractaires à la 5G finissent par s'y mettre.
Oui, on va parler 5G car elle arrive pour de bon malgré les réticences de certains élus écolos qui ont toujours un peu de mal avec la technologie.
Bon réveil à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1. 7h18, le regard international de Vincent Hervouet. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu.
Le ministre de l'Intérieur libyen échappe de peu à la mort.
Oui, il s'appelle Bachaga, ce qui veut dire le chef, au moins il n'avance pas masqué, son nom et son programme. Il y a 15 jours, il devait être nommé Premier ministre, il prétendait réformer la sécurité, il s'agit de réformer en fait l'insécurité, vu que rivalise en Libye une centaine de milices. Lui-même a d'ailleurs dirigé celle de Misrata pendant la Révolution, et sa réforme était modeste, il voulait dresser l'inventaire des groupes armés en leur mettant des couleurs rouge, orange, vert, selon qu'elles sont très criminelles, carrément extrémistes, ou seulement au service d'une tribu, d'un clan ou d'un puits de pétrole.
Les groupes armés de Tripoli se sont méfiés de ce ministre qui annonçait la couleur.
Ils lui ont barré la route. Fatih Bachaga est resté ministre de l'Intérieur. D'autres ont décidé de le stopper définitivement. Et hier après-midi, les tueurs l'attendaient dans une voiture blindée avec, semble-t-il, une mitrailleuse lourde. C'était l'attaque de la diligence. La Libye est un peu le Far West du Maghreb. L'escorte du ministre a tué l'un des assaillants. On a arrêté deux autres. Ils ont fini par parler. Ce sont des sicaires d'une ville voisine. On ne sait pas trop qui les a envoyés. Il n'y a que l'embarras du choix. Beaucoup d'ennemis, beaucoup d'honneur. Washington, Paris, l'Europe, l'ONU, la Turquie sont tous en coup.
Et pourquoi est-ce si important ?
parce que cet attentat met en danger le processus lancé en octobre avec le cessez-le-feu entre l'Est et l'Ouest. Il y a un conseil présidentiel depuis 15 jours. C'est l'espoir fragile d'en finir enfin avec l'anarchie. Et l'anarchie pour les Libyens, ça signifie la misère, l'inflation galopante, des pénuries de tout, de courant et même d'essence, ce qui est un comble dans un pays qui est une éponge gorgée de pétrole. Pour les Européens, l'anarchie, c'est que quand la situation sécuritaire se dégrade, eh bien, les passages clandestins à travers la Méditerranée se multiplient. Et puis pour les voisins, du Maghreb ou du Sahel, le risque terroriste augmente. Déjà, il y a un émirat islamique qui s'est reconstitué dans le sud, près de Ghadames, grâce aux milliers de djihadistes acheminés par les Turcs. Alors ça fait 10 ans que la Libye s'est révoltée. Personne n'a fêté cet anniversaire à Benghazi la semaine dernière. La France a brisé la boîte de Pandore sur la tête de Kadhafi. Et c'est la Libye qui semble d'avoir cessé d'exister.
Merci Vincent Hervouet, le regard international. Il est 7h21. Tout de suite, l'édito sport de Virginie Fulpin, juste avant notre rendez-vous d'histoire avec Stéphane Bern. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Alors ce matin, l'expression du jour sera « à vos souhaits ». Oui, une façon élégante de se souhaiter le meilleur, même si votre interlocuteur vient de vous briser les tympans avec un éternuement de tous les diables. Mais d'où ça vient cette expression « à vos souhaits » Vous le saurez tout à l'heure.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h24 sur Europe 1, l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Novak Djokovic a remporté l'Open d'Australie hier. Samedi, c'est Naomi Osaka qui a été titrée dans le tournoi féminin. La japonaise s'impose en nouvelle patronne du circuit. On entend le bouchon de champagne, là, à défaut d'ambiance de public. Hein. Désormais, on se contentera du bouchon de champagne. Pour vous, c'est Naomi Osaka qui peut sauver le tennis féminin.
Ben elle a tout d'une grande, hein. Une grande joueuse, une grande star aussi, tant son influence dépasse les limites du court sans qu'aucun juge ne puisse crier faute. Hein. Ça fait quelques années qu'on tourne en rond sur le circuit féminin. À part les grands passionnés de tennis, les autres vont avoir du mal à me répondre si je demande qui a gagné Wimbledon en 2018 ou Roland-Garros en 2019. Ashleigh Barty, Simona Halep, Angélique Kerber sont de grandes joueuses, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais il n'y a pas une tête qui dépasse. Elle gagne un tournoi avant de laisser la place à la victoire d'une autre, jamais un mot plus haut que l'autre non plus. Alors, le grand public a du mal à s'attacher, hein, surtout en comparant au trio Djokovic, Nadal et Federer. Du coup, on se raccroche à Serena Williams, seule superstar du circuit féminin depuis la retraite de Maria Sharapova. Mais l'américaine va avoir 40 ans, elle n'est pas éternelle non plus. Et là, enfin, avec Naomi Osaka, Serena Williams peut se dire que le moment venu, elle laissera le tennis féminin entre de bonnes mains. Elle a trouvé son héritière. La japonaise vient de remporter son 4e titre du Grand Chelem à 23 ans, alors qu'elle a fait l'impasse sur le dernier Roland-Garros et que Wimbledon n'a pas eu lieu l'an dernier. Hein. Là voilà, la tête qui dépasse, le début d'un règne qu'on n'osait plus imaginer.
En plus, Naomi Osaka ne se contente pas d'exister sur les courts de tennis.
Il y a ses prouesses sur le terrain, mais il y a aussi tout le reste. Naomi Osaka, c'est une personnalité qui dit ce qu'elle pense ce qu'elle dit et l'affirme aussi fort qu'elle tape dans la balle. Elle est japonaise mais vit aux États-Unis depuis qu'elle a 3 ans et elle a été la première à boycotter sa demi-finale du tournoi de Cincinnati fin août pour protester contre de nouvelles violences policières contre un homme noir. On peut voir ça en NBA mais au tennis ça n'arrive jamais. Elle l'a fait et le tournoi s'est mis en pause. Il n'y a qu'elle pour secouer le petit monde de la raquette comme ça. Naomi Osaka tense aussi les Japonais en leur demandant de réfléchir à la façon dont ils traitent les enfants d'union mixte comme elle, puisque sa mère est japonaise et son père haïtien. Elle n'a pas hésité non plus à s'en prendre au patron du comité d'organisation des JO de Tokyo et à ses propos sexistes. Bref, Naomi Osaka est une joueuse engagée. Elle est aussi une égérie de Louis Vuitton, parce que l'engagement n'empêche pas le glamour. Bref, c'est la star dont le tennis féminin avait besoin. Le tennis tout court d'ailleurs, le genre de personnalité qui ajoute encore quelques lettres de noblesse au sport.
Merci Virginie Fulpin, l'édito sport tous les matins sur Europe 1 à 7h20. Et nous retrouvons Stéphane Bern pour notre mot d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous avez déjà éternué en plein direct à la radio, derrière votre vitre en plexi.
Ça m'est
mais
arrivé.
Si cela vous est
dans
déjà...
l'ancien monde. Hein,
dans l'ancien monde. Mais si cela vous est déjà arrivé, j'espère qu'un chroniqueur économique n'était pas loin pour vous dire « à vos souhaits ». À vos souhaits, mais d'où vient cette expression?
J'imagine qu'on souhaite la bonne santé, un prompt rétablissement à celui qui vient d'éternuer.
Oui, exactement, mais permettez-moi d'en dire un peu plus. Quand on éternuait durant l'Antiquité, ce n'était rarement annonciateur de bonnes nouvelles. Pour conjurer le sort, on s'en remettait aux dieux, on disait « que Jupiter te conserve », qui est rapidement devenu « que Dieu vous bénisse ». Une croyance...
Traduction
oui.
efficace.
une croyance a longtemps perduré. On a longtemps cru que l'âme des gens était dans leur corps et qu'éternuer pouvait l'expulser de soi. Dès lors, on mettait sa main devant sa bouche pour l'en empêcher, ainsi que pour éviter qu'un démon entre par la même voie.
Oui, à pas
la
d'inquiétude même Virginie, on est masqué aujourd'hui.
Le démon c'est bon, je garde mon âme.
On est rien n'entre, rien ne sort. Dans la Grèce antique, si on éternuait, c'était un esprit divin qui passait à vos souhaits, était donc une façon polie de saluer cet esprit divin. Au Moyen-Âge, l'un des premiers symptômes de la peste était de tousser, d'éternuer. Au passage, entre 1347 et 1352, c'est 50% de la population européenne qui en est morte. Donc vous imaginez le stress pour le Olivier Véran de l'époque. On comprend que l'habitude a vite été prise de conjurer au mieux le sort en disant « à vos souhaits ». Celui, effectivement, de ne pas tomber malade ou de guérir vite. Allez, pour finir, je ne résiste pas à vous faire à partager avec vous ce bon mot de Léon Zitrone. La popularité, c'est d'éternuer à l'écran et de recevoir des centaines de lettres le lendemain où il est écrit à vos souhaits.
Oh, je vais le tester un jour, ça. Juste pour voir ce que ça donne. Bon, nous, ça sera Twitter comparé à Léon Zitrone. Qui était le Olivier Véran de 1347? Si je devais appeler quelqu'un, ce serait Stéphane Bern pour demander à 16h si tu as
trouvé mes grimoires. En attendant, à 16h, oui, je retrouve Mathieu Noël et notre trois personnages du jour, le couturier Pierre Balmain, Jacques de Bacher qui fut le seul et unique amour de sa vie, et Choupette, la chatte la plus chanceuse de l'histoire qui a hérité de très nombreuses boîtes de pâté. Vous l'avez compris, à l'occasion des 2 ans de la disparition de Karl Lagerfeld, eh bien on réunit ceux qui l'ont côtoyé de près. Et Sébastien Jondot, son homme de confiance qui a travaillé avec lui pendant 20 ans, sera également avec nous.
À tout à l'heure, 16h. Il est 7h29 et Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Allez, si Choupette craint le vent, ben ça sera pas bon parce que des vents du sud, il y en a énormément en ce moment. Vous savez que tout le bassin méditerranéen, les régions du sud-ouest sont soumises à des vents de 80 à 90 km/h. 80 heures.
Je vous laisse décliner.
Oui. Elle pousse des nuages qui viennent du sud et qui viennent du Sahara, qui sont remplis de sable. C'est la raison pour laquelle vous avez peut-être du sable sur votre voiture ou autour de vous. Alors cette perturbation sableuse, eh bien, sera la nôtre aujourd'hui. Elle va toucher la Bretagne, la Normandie, Poitou-Charentes, le sud-ouest, le bassin méditerranéen, bien sûr, où les vents resteront très forts, le massif central. Et puis nous aurons, et il faut le dire aussi, peut-être quelques gouttes de pluie sur Paris avec ce sable dont je parlais. Sur la Picardie, le Nord, le Limousin, un ciel très nuageux. En Champagne-Ardenne, la Bourgogne, le Centre, la région Rhône-Alpes, la Lorraine, l'Alsace et la Franche-Comté. Nous aurons de courtes éclaircies. Quant aux températures, restent très très douces. Ça, c'est la consolation. Entre 12 et 20 degrés. Aujourd'hui, il en fera 14 à Paris.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour, Sophie Echen.
Bonjour, Mathieu. Bonjour à tous.
Un nouveau journal sur Europe 1. Il est 7h30.
Toute la logistique est mise en place, les laboratoires s'organisent avec l'établissement scolaire et les échantillons seront traités et analysés afin d'avoir les résultats sous 24 heures.
Les tests salivaires sont déployés dans les écoles à partir d'aujourd'hui. Un protocole plus simple à réaliser auprès des plus jeunes enfants. Objectif, 200 000 tests par semaine. Dans ce journal, les habitants des Alpes-Maritimes sont toujours sous la menace d'un reconfinement le week-end. Une décision qui aurait déjà dû être prise depuis un moment, déplorent les professionnels de santé. L'ouverture tout à l'heure du procès de l'infirmière qui avait lancé des projectiles sur la police au cours d'une manifestation l'été dernier. Et puis 3 mois après son spectaculaire accident lors du Grand Prix de Bahreïn, le pilote miraculé Romain Grosjean est déjà de retour en piste.
Juste après ce journal, Bertrand Chameroy et son regard décalé sur l'actualité. Une femme qui vote au Vatican, elle est française, la religieuse Nathalie Bécart, que le pape François vient de nommer numéro 2 du synode des évêques. C'est l'invité du tête-à-tête Europe Matin. L'édito politique de Nicolas Bétou. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Vous défendez ce matin Frédéric Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
Oui, qui est empêtrée dans une polémique sur l'islamo-gauchisme dans les universités. La majorité est divisée sur cette menace pourtant réelle dans les facs françaises. Menace sur la liberté.
Juste avec Nicolas Canteloup, tout à l'heure, qui coach à sa manière l'invité de la matinale. Aujourd'hui, l'ancien grand patron Louis Gallois sera sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Les élèves de la zone A reprennent le chemin des classes ce matin. Ce sont donc eux qui vont expérimenter en premier les tests salivaires dans les écoles. Ils sont déployés à partir d'aujourd'hui. 50 000 à 80 000 tests seront réalisés dès cette semaine pour atteindre 200 000 tests par semaine. C'est l'objectif du ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer.
Bonjour Virginie Salmen.
Bonjour.
La mise en place sera donc progressive. Comment ça va se passer exactement ?
Alors, les élèves vont devoir cracher au moins 1 ml de salive dans un flacon en plastique après avoir donné leur nom, prénom, numéro de sécurité sociale et un accord écrit des parents. Ces dépistages ciblés sont pour l'instant réservés aux élèves les plus jeunes, en maternelle et en élémentaire, pour qui les tests dans le nez sont jugés trop intrusifs. L'échantillon de salive sera ensuite récupéré par un laboratoire de secteur désigné et analysé par la même méthode qu'un test PCR par écouvillon dans le nez. Si le test est positif, un criblage sera effectué pour rechercher le variant, anglais ou sud-africain par exemple. Selon les représentants des laboratoires, le processus n'est pas entièrement bouclé. Par exemple, ils ne savent pas encore à qui ils devront envoyer les résultats. Si c'est aux parents, il faudra récolter les coordonnées au moment du dépistage. Si un élève est testé positif, il devra être averti avant le lendemain 8h pour ne pas qu'il se présente à l'école.
Virginie Salmen.
À la une également ce matin, l'attente dans les Alpes-Maritimes. Reconfinement le week-end, couvre-feu généralisé. Les annonces du gouvernement tardent à venir.
Le département subit en ce moment une flambée de l'épidémie avec un taux d'incidence 3 fois plus élevé qu'au niveau national. La préfecture a proposé toute une série de mesures, mais l'exécutif tarde à arbitrer. De quoi provoquer l'incompréhension du docteur Jérôme Marty, le président de l'Union française pour une médecine libre. Selon lui, il aurait fallu agir bien plus tôt.
Ça fait quand même plusieurs jours, voire plusieurs semaines que la situation se dégrade dans la région de Nice et dans le sud-est. On attend une fois de plus que l'iceberg soit contre la coque du navire pour agir. Une fois de plus, on a raisonné sur le plan national et pas sur le plan territorial. C'est très franco-français, quoi. Tout se passe sur Paris et puis on regarde pas ce qui se passe à l'extérieur. Et il faut arriver maintenant à regarder ce qui se passe ailleurs, cibler et faire des frappes chirurgicales s'il le faut. Si on a dans une zone une émergence de cas qui apparaît, il faut agir tout de suite sur une ville, voire sur des quartiers de cette ville, voire sur une rue, comme on le fait dans les pays qui sont rentrés dans l'option zéro Covid, et ne pas attendre d'avoir énormément de cas pour agir. C'est ce qu'on fait depuis le début, on attend trop, et c'est pour ça qu'on a tendance à aller d'échec en échec.
Le docteur Jérôme Marty avec Diane Berger, nous serons en direct de Nice dans moins d'une demi-heure dans le journal de 8h.
7h34, les images de son interpellation ont fait le tour des réseaux sociaux. Le procès de l'infirmière qui avait lancé des projectiles sur la police, procès qui s'ouvre aujourd'hui.
Oui, c'était en juin dernier lors d'une manifestation de soignants, une interpellation sans ménagement par les forces de l'ordre. La scène largement diffusée a suscité une vague d'indignation. Et peu de temps après Chloé Triomphe, on apprenait donc que cette infirmière avait d'abord lancé des cailloux en direction de la police.
Oui, cette infirmière de 50 ans sera jugée pour outrage et violence sans ITT sur personne dépositaire de l'autorité publique. En garde à vue, elle avait reconnu les jets de morceaux de bitume sur les policiers et avait expliqué son geste par un sentiment de colère contre l'État dans un contexte où elle avait travaillé des mois durant à l'hôpital pendant le pic de l'épidémie l'an dernier, exténuée, elle-même contaminée par le virus et ayant dû affronter le décès d'une vingtaine de patients sous ses yeux. Les images montrent une femme effectivement en colère, qui fait 2 doigts d'honneur et qui jette des projectiles en direction des forces de l'ordre. Ses tirs n'ont pas atteint les policiers. Une autre vidéo montre son interpellation musclée, notamment lorsque cette infirmière d'1m55 est tirée par le col et plaquée au sol alors qu'elle réclame sa ventoline. L'affaire avait d'abord suscité l'émoi lors de la diffusion de la vidéo d'interpellation, puis le débat. Aujourd'hui, ses soutiens demandent que le contexte ne soit pas éludé au moment de l'examen des faits par le tribunal.
Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1. Après les hôpitaux de Dax et de Villefranche-sur-Saône, c'est l'agglomération de Chalon-sur-Saône qui a été victime d'un piratage informatique ce week-end, avec l'impossibilité d'accéder à plusieurs services en ligne.
C'est un miraculé qui fait son grand retour. Le pilote de Formule 1, Romain Grosjean, rappelez-vous, au mois de novembre dernier, il était sorti in extremis de sa voiture en flammes, les mains complètement brûlées.
Il lui reste encore quelques séquelles, évidemment, mais il reprend du service, cette fois aux États-Unis sur le circuit d'IndyCar, et il va faire ses premiers essais aujourd'hui, Marguerite Lefebvre.
Sa main gauche n'est pas totalement guérie. 3 mois après son accident, il doit encore cicatriser, faire travailler ses muscles sans abîmer sa nouvelle peau. Romain Grosjean est un miraculé, brûlé au deuxième degré, mais il veut aujourd'hui laisser cet accident derrière lui. Son avenir, il ne l'imaginait pas ailleurs que dans un cockpit. Cette décision de repartir, il l'a mûri en famille ces dernières semaines.
On a beaucoup discuté en famille. Je n'allais pas aller contre la vie des miens. Ils m'ont soutenu vraiment dans tout le projet. Les enfants ont participé à... au design de mon nouveau casque, au choix du numéro. Je pense que c'est important que tout le monde soit en paix avec la décision. Ils savent que je suis le papa que je suis ou le mari que je suis parce que j'ai aussi le sport automobile et que ça fait partie de ma vie et de ma passion.
Une passion que Romain Grosjean exercera désormais aux États-Unis avec une nouvelle voiture et de nouvelles habitudes à prendre. Outre-Atlantique, il ne veut pas faire de la figuration, mais cette saison, Romain Grosjean restera toutefois éloigné des ovales. Ces circuits ultra rapides, ce sont les plus dangereux au monde. C'est encore trop tôt pour le miraculé français.
Et puis un mot de rugby, le sort s'acharne sur le 15 de France. 9 joueurs et membres du staff ont contracté le coronavirus, les contaminations s'enchaînent depuis la semaine dernière et il y a de quoi être inquiet alors que les Bleus joueront contre l'Écosse dimanche dans le cadre du tournoi Destination.
Merci beaucoup Sophie Echen. C'était le journal de 7h30 sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
On va parler de l'industrie française, de la relance, mais aussi de solidarité. À 8h15, je reçois l'ancien grand patron Louis Gallois pour la jeunesse. Il plaide pour un RSA avant 25 ans. Le gouvernement est contre, vous le savez, Louis Gallois sur Europe 1. Le tête-à-tête Europe Matin dans un instant avec Nathalie Bécard. Elle sera la première femme à voter au Vatican. La place de la femme dans l'église au programme. Mais tout de suite, la touche âme, Bertrand Chameroy et son regard sur l'actualité. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, je suis doublement heureux ce matin. Je vous retrouve et Emmanuel Macron a trouvé la solution contre le Covid. Que demander de plus ?
A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h40 sur Europe 1, la touche âme. L'heure de retrouver Bertrand Chameroy. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu.
Et vous démarrez la semaine de bonne humeur.
De très bonne humeur. Ça y est, enfin, après 6 ans de couvre-feu, nous voyons enfin le bout du tunnel de cette fichue crise sanitaire. Comment ça, vous n'êtes pas au courant ? Non mais je sais que vous étiez en vacances Mathieu, mais il faut se tenir aux news. Vous n'avez pas entendu Emmanuel Macron vendredi ? Bah il a parlé pourtant. Bon, c'était pas à la télé, ça se passait sur les réseaux. Eh ouais, on est connecté à l'Elysée, qu'est-ce que vous croyez ?
Bonjour à tous les deux, j'espère que vous allez bien. Alors je sais que d'habitude, c'est vous les spécialistes des défis. Faites une vidéo pour réexpliquer ces gestes, l'importance de les respecter, de ne pas nous rassembler, de ne prendre aucun risque. Et si vous avez 10 millions de vues, je prends un engagement. Vous venez tourner à l'Elysée.
Février 2021, près d'un an après le début de la pandémie, le président de la République lance un défi aux youtubeurs McFly et Carlito pour leur demander de tourner un clip de sensibilisation aux gestes barrières. Alors, de ce que j'ai compris, grosso modo, il faut se laver les mains avec du gel hydroalcoolique, c'est ça ? Tousser dans son coude et porter un masque. Alors, qui a dit que la France était en retard à la traîne à la ramasse ? Hein, qui ? Si avec ça, on s'en sort pas, je ne réponds plus de rien. Alors, évidemment, comme à chaque fois, dans ce genre de situation, il y a toujours des oiseaux de mauvais augure pour critiquer, pour pointer du doigt, alors qu'en réalité, c'est du génie ça. Le tournage du clip coûte zéro à l'Elysée. McFly et Carlito se sont engagés à reverser les recettes générées par leurs vidéos au réseau d'épiceries solidaires pour étudiants Agorae. Paf ! En une vidéo, le président sauve gratuitement une opération séduction auprès des jeunes et en plus, il aide les étudiants précaires sans rien faire. Et il y en a qui osent encore venir se plaindre. Ah, ce pays, je te jure, que des bons à râler. Et selon mes infos, la cellule Bonnes Idées de l'Elysée plancherait sur d'autres opérations pour les semaines à venir. Il me tarde de découvrir la prochaine allocution du président.
Ah. Damn la Team France, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir pour moi de vous parler aujourd'hui. Nouvelle vidéo pour vous annoncer que nous avons du nouveau concernant le couvre-feu, les vaccins et une solution pour les étudiants.
En revanche, je vous lâche une exclue, Olivier Véran va ouvrir son compte TikTok pour annoncer les prochaines mesures anti-Covid, Gérald Darmanin débarque sur Clubhouse pour parler islamo-gauchisme avec Frédéric Vidal, et on va vous streamer le prochain conseil de défense sur Twitch. What ? Et si cette vidéo fait plus de 10 millions de vues, j'envoie Jean Castex faire du crossfit avec Thibaut InShape. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo avec McFly et Carlito. Bah attendez, ils font le taf à notre place, on va pas se gêner. Voilà, abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas de lâcher des pouces bleus pour 2022. Vive la République et vive le like.
Incroyable cette Marseillaise tuning, on peut dire ça ?
Oui, on peut dire ça comme ça.
Merci Bertrand Chameroy, et puis tiens, McFly et Carlito.
Je me souviens de ce monde où les seules barrières étaient celles dans les champs de vaches.
Bon, il fallait l'écrire vite, hein. Le défi c'était vendredi,
oui, oui,
la mise en ligne c'était hier, ils sont déjà à près de 6 millions de vues,
ouais,
ils vont y arriver, ils vont le tourner leur clip à l'Elysée. Merci Bertrand Chameroy, on vous retrouve à 10h avec Philippe Vandel dans Culture Média, il est 7h43.
Europe Matin, le 7-9.
C'est le pape qui l'a voulu, c'est lui qui l'a nommé. Une femme aura le droit de vote au Vatican, sous-secrétaire du Synode des évêques, numéro 2 du Synode des évêques. Nathalie Bécard, religieuse française, diplômée d'HEC. Pour sa première interview radio, elle accueille notre correspondante à Rome, Blandine Hugonnet, dans ses nouveaux bureaux du Vatican. Elle s'installe dans ce nouveau poste et nous parle de la femme dans l'Église catholique. Nathalie Bécard est mon invitée.
Le tête-à-tête. Mathieu Béliard.
Bonjour Nathalie Bécard.
Bonjour.
Et merci de nous recevoir. Vous recevez Europe 1 dans vos bureaux au Vatican ce matin. Première interview à la radio française. En prenant vos fonctions, vous avez parlé de grâce d'être à Rome.
Oui, bah c'est vrai que j'aime beaucoup Rome. Voilà, c'est une ville magnifique, d'histoire, de soleil. Mais c'est aussi, je dirais, une ville très internationale. Et surtout pour le Vatican, voilà, c'est au service du monde entier. Et cet aspect d'être en lien, tout en étant à Rome, d'être en lien avec la diversité de tous les continents, des cultures, voilà, c'est quelque chose qui me marque beaucoup et que j'aime beaucoup aussi.
Ce poste que vous occupez désormais, vous le vivez comment ? Comme un métier, un engagement ? Comme un appel ?
Oui, alors d'abord comme un appel et puis vraiment comme une mission. Voilà, c'est quelque chose qui me dépasse, qui m'est tombé dessus, que j'avais jamais imaginé. Donc ça invite à beaucoup de confiance. Et puis je le vis vraiment d'abord et avant tout, surtout comme un service. Mais l'Église, elle est au service de tous, de toute la société et de tous les différents pays.
Mais il y a une charge symbolique importante. Est-ce que vous vous inscrivez vous-même dans une démarche politique, un pas de plus vers plus de responsabilités féminines, vers l'ordination de femmes un jour peut-être ?
Alors, ce qui est sûr, c'est quand on voit la résonance de ce choix du pape François, sa décision qui est quand même audacieuse parce qu'elle inscrit à la fois une forme de nouveauté, mais elle vient en réponse en fait d'aspirations, d'échanges, de débats dans l'Église qui ont appelé de manière très forte à plus de responsabilités des femmes dans l'Église, sur le terrain. Elles sont déjà très présentes dans beaucoup d'endroits. L'enjeu de les associer davantage au processus de décision. Et en fait, ça, c'est des aspirations portées par beaucoup de personnes de par le monde, non seulement des femmes, mais aussi des hommes et dans les différents mondes, je dirais aussi bien dans le monde économique, le monde politique.
C'est important, Nathalie Bécart, ces prières qui vous sont adressées, l'espoir que vous suscitez pour beaucoup de femmes catholiques et pas seulement.
Oui, en tous les cas, ça me touche beaucoup. J'ai reçu des centaines de messages là depuis que j'ai été nommée de personnes très diverses, beaucoup de femmes bien sûr, mais pas seulement, des religieuses, mais aussi des prêtres, des évêques, des hommes, des jeunes, des plus âgés. Et ça me porte beaucoup et je suis très touchée à travers ça de me sentir profondément reliée en fait à toutes ces personnes. Je sens que je suis appelée à vivre cette responsabilité aujourd'hui en étant voilà, très proche de tous et complètement reliée à ce peuple de Dieu. Et parmi les messages qui m'ont le plus touchée, c'est aussi des messages d'amis musulmans, bouddhistes, de personnes pas du tout croyantes, qui viennent d'autres mondes, mais qui me disent aussi leur soutien.
Alors, vous venez de prendre vos fonctions, je le redis, Nathalie Bécart. Sous-secrétaire, c'est numéro 2 du Synode des évêques. Concrètement, c'est quoi votre travail au quotidien ?
Alors, je dirais le travail au quotidien, c'est un travail d'équipe, et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. En fait, le vrai numéro 1 du synode, le président du synode, c'est le pape François. Donc, nous, on est directement sous l'égide du pape François. Donc, c'est un travail d'équipe de direction, je dirais, mais plus largement de travailler avec toute cette équipe, ce staff permanent, pour préparer le prochain synode qui est annoncé pour octobre 2022. Voilà, donc on ne va pas manquer de travail. Alors, la tâche est devant nous.
Au prochain synode, et c'est le caractère historique de votre nomination, hein. En vous nommant, le pape François vous confère un droit de vote. Vous aurez le droit de vote à ce prochain synode. C'est cette première historique, vous serez la première femme à voter au synode des évêques au Vatican.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est de fait la fonction, la mission, voilà, que j'ai reçue de sous-secrétaire, implique directement et constitutionnellement, je dirais, le droit de vote au synode. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que la perspective d'un synode, en fait, depuis l'origine de l'Église, il y a des synodes qui ont été organisés et qui sont faits pour trouver un consensus sur des questions débattues quand il y a des divergences ou des points de vue différents. Donc le but d'un synode, en fait, c'est d'arriver à un consensus, de créer de la communion. Donc en fait, le vote, il n'intervient qu'à la fin. Si le processus a bien fonctionné, en fait, quasiment tout est voté à l'unanimité à la fin.
Ok pour l'importance du vote en lui-même, mais ce droit de vote, il fait de vous un grand symbole de la place des femmes, j'insiste, de la place pas toujours enviable non plus des religieuses au Vatican.
L'Église, elle est au cœur de la société. La place des femmes, elle a bougé depuis un siècle, elle continue à bouger. Et c'est vrai que les religieuses, elles sont plus de 440 000 dans le monde. Elles sont au plus proche des gens, à les servir à travers l'éducation, les hôpitaux, enfin de bien des manières. Effectivement, elles sont aussi à travailler dans de nombreux postes au Vatican. Comme les femmes aussi, vous savez qu'à la curie romaine aujourd'hui, il n'y a pas loin de 25% de femmes. Et ça, voilà, ça bouge petit à petit.
Mais est-ce que ça bouge assez vite? Alors vous n'allez pas me dire le contraire, hein, il vous a nommé, mais ce sera aussi son bilan, il est attendu sur ce point. Est-ce que le pape François en fait assez pour les femmes dans l'Église?
En tous les cas, il porte vraiment, il l'a exprimé plusieurs fois, ce désir, voilà, que les femmes trouvent davantage leur place. Voilà, donc il fait un certain nombre de gestes. Maintenant, vous savez, les changements de mentalité, la conversion des manières de fonctionner dans bien des lieux, ça prend du temps. Il s'agit de continuer à chercher ensemble les chemins qui vont permettre ce respect mutuel, cette égalité et surtout ce travail commun, puisque je crois qu'aujourd'hui, en particulier en temps de crise, comme on est aujourd'hui à traverser la pandémie, on le voit bien, c'est la diversité qui va nous permettre de trouver les chemins.
Alors, vous me parlez du temps de crise. Un dernier mot, ce matin, on a évoqué Rome, mais le Vatican lui-même, le palais, les bureaux, alors on parle parfois d'opulence, d'abondance au Vatican. Quel regard est-ce que vous portez, Nathalie Bécard, sur votre nouvel environnement de travail ?
L'histoire est présente et les locaux, les bâtiments qu'on visite sont témoins de cette histoire. Mais pour moi, le Vatican, c'est d'abord des hommes et des femmes, justement. Je connais déjà des personnes que j'ai commencé à rencontrer. Et en fait, il y a beaucoup de belles personnes, très dévouées, qui sont vraiment au service de l'Église, pour être au service de la société. Et donc, pour moi, le Vatican, c'est d'abord ça. Donc, pour moi, c'est aussi d'abord un lieu d'expérience spirituelle, en fait, le Vatican.
Merci beaucoup Nathalie Bécard.
Merci.
Et bon courage dans vos nouvelles fonctions.
Oui, merci, il en faut un peu.
Ah oui, il en faut un peu ?
Oui, c'est une nouvelle aventure.
Merci mille fois.
Europe 1, Mathieu Béliard.
7h51 sur Europe 1, l'édito politique de Nicolas Bétou. Dans une minute avant de retrouver Nicolas Canteloup, comme tous les matins avant 8h. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h53 sur Europe. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Malgré la polémique qu'elle avait déclenchée, Frédéric Vidal a décidé de maintenir sa demande d'enquête sur l'islamo-gauchisme à l'université.
Oui, et elle a bien du mérite, la ministre de l'Enseignement supérieur, d'affronter et de tenir face au déferlement de critiques venues de la gauche et de haine venues des réseaux sociaux. Sa faute ? Avoir dit tout haut ce que nombre de témoignages affirment déjà depuis des mois dans les facs françaises. La liberté de penser est menacée et elle l'est par ceux-là même qui vocifèrent contre la ministre.
Pardon, mais c'est eux ceux qui critiquent Frédéric Vidal, qui dénoncent au contraire une démarche ministérielle menaçante pour la liberté.
Ben oui, c'est un grand classique dans ce genre de débat. Hein. Ceux qui crient le plus fort au nom de la liberté sont en réalité ceux qui la menacent le plus et entendent qu'on les laisse tranquilles dans leur petite entreprise de manipulation. À l'université, un courant de plus en plus puissant propose de regarder tout l'enseignement sous l'angle de la remise en cause du colonialisme avec un prisme de race auquel s'ajoute la question du genre. L'intersectionnalité fait des ravages.
Oui, il faut expliquer l'intersectionnalité.
Oui, c'est le fait d'analyser le monde et toutes les matières par le biais conjugué de la race, du genre et de la classe sociale. Ça donne un regard très partial sur les sciences et sur l'enseignement. Et c'est ce que dénonce Frédéric Vidal et qu'elle veut faire analyser.
Sauf que la conférence des présidents d'université l'a mal pris. Elle rappelle que la recherche n'est pas responsable des maux de la société, mais qu'elle doit les analyser.
Ce qui est parfaitement exact. Mais à condition que ceux qui enseignent les théories du genre ou de la race n'empêchent pas les autres enseignants et chercheurs de continuer à voir le monde comme ils l'entendent. Or, c'est là toute la question. Des facs sont en train de passer sous contrôle de ces prophètes de l'exclusion qui commencent à interdire toute expression divergente de la leur. C'est d'ailleurs un clivage très politique, très tranché, gauche-droite. La gauche, en particulier l'extrême-gauche, est souvent islamo-gauchiste. Elle voit l'islam comme la religion d'une minorité opprimée par la classe et par la religion dominante. Et elle pactise souvent sur le plan électoral avec leurs représentants. On voit beaucoup ça chez certains maires. C'est, vous savez, la récente affaire de Trappe, par exemple.
Et la majorité présidentielle, elle se situe comment, Nicolas ?
Eh bien, elle est divisée entre la droite et la gauche de La République En Marche, bien sûr, ce qui donne une vraie cacophonie
et une impression d'hésitation de la part du chef de l'État. Alors, entre défense un peu théorique de l'autonomie absolue des universités et défense de la liberté de penser, il va pourtant falloir qu'il se fasse une religion.
Votre édito tous les matins d'Europe Matin, juste avant 8h. Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion. Et vous restez avec nous Nicolas, puisque comme tous les jours à 7h56, nous retrouvons Nicolas Canteloup qui conseille à sa manière l'invité de la matinale. À 8h15, j'interviewerai Louis Gallois, ancien grand patron de la SNCF, d'Airbus, de PSA et président du think tank La Fabrique de l'Industrie. Et c'est monsieur Régis, notre monsieur syndicat SNCF qui est venu le saluer.
Oh, bonjour monsieur Béliard, monsieur Bétou, bonjour Régis. À tout le wagon. Oh, on en a partagé des beaux souvenirs avec mon loulou Gallois. Ah oui, des grèves nationales, des grèves régionales aussi, des grèves surprises, des grèves nocturnes. Des grèves nocturnes surprises. Oui, on lui a tout fait. On lui en a fait voir toutes les couleurs à notre loulou.
Et vous vous rappelez du pourquoi de ces grèves, monsieur Régis ?
Bah, à l'époque, oh, monsieur Béliard, c'était les années 2000. Hein, de mémoire, monsieur Bétou, on devait, je sais pas, moi, sûrement, pour râler pour la retraite des cheminots.
De mémoire.
On a bien fait de pas suivre son exemple, là, Louis Gallois. Il a 77 ans. Il est toujours pas à la retraite. Oh, il bosse encore. Non, mais franchement, hein, monsieur Bétou, c'est des dingues, les patrons. Ils s'arrêtent jamais. Jamais ils s'arrêtent.
Sauf qu'officiellement, il est à la retraite. Ça y est, Louis Gallois, il vient de quitter PSA. On va voir comment
oui,
il occupe cette retraite.
Oui, mais ça pète ma vanne.
Oui, non, mais je suis bien d'accord. Et puis, c'est très actif comme retraite. On est bien d'accord, Nicolas Canteloup. Merci, monsieur Régis. Nicolas, on vous retrouve à 8h45 pour la revue de presse. Et Louis Gallois, à 8h15 sur Europe 1. Très bon réveil à tous. 7h59, Laurent Cabrol est avec nous pour la météo.
Ah, ce vent, mon Dieu, c'est le vent marin, c'est le vent d'OTAN, c'est un vent qui souffle à 90, 100, 110 km/h et depuis plusieurs jours, et je dois dire que tous les habitants de cette partie de la France, à la fois le bassin méditerranéen côté golfe du Lion et puis la région du Tarn ou le département du Tarn et de Haute-Garonne, ce vent nous agace, ce vent nous fait peur et il sera encore là aujourd'hui, il sera encore là un petit peu demain et ensuite il va se calmer. Mais aujourd'hui, il y a aussi de la pluie et de la pluie sur la Bretagne, la Normandie, la Vallée de la Loire, le Poitou-Charentes, le Sud-Ouest, le bassin de la Méditerranée et le Massif central, ce sont des pluies parfois assez fortes et des pluies qui viennent du sud, je vous le disais tout à l'heure. Si vous êtes en région parisienne, nous sommes en limite de la perturbation, il devrait y avoir quelques gouttes, pas plus, mais dans l'ensemble, il y aura aussi peut-être quelques éclaircies et en Champagne-Ardennes, sur la région de Bourgogne, du centre de la région Rhône-Alpes, la Lorraine, l'Alsace et la Franche-Comté, on peut parler encore là aussi d'éclaircies. Un ciel très nuageux, en revanche, sur la Picardie, le Nord et le Limousin. Les températures restent douces et le restaurant, je vous dirai tout à l'heure, la tendance pour la semaine, entre 12 et 18 degrés, 18 à Lyon, 12 à Rennes et en passant par 15 à Belfort.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.